UMC TV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Sommes-nous tous concernés par l'évangélisation ?» Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », notre invité, le pasteur Semayas, répondra à la question « Comment partager son témoignage de façon efficace ?» Et nous terminerons l'émission avec la rubrique « Culture et médias » dans laquelle Annabelle nous présentera les ministères d'évangélisation de rue de nos invités. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Hello tout le monde.
Bonjour.
Ça va aujourd'hui?
Super.
Ça va très
bien. Pasteur Semayas, la victoire a été merveilleuse hier, ça va? Promis.
On s'est bien battu.
Bien battu, Cospiel,
ça
a été?
Ça va.
T'as pas pleuré après la défaite?
Non, bon, Jérémy m'a aidé. Hein.
Il t'a consolé.
Et un fort travail de...
Les paroles.
Voilà.
Guérison intérieure.
T'as perdu aussi. Hein.
Justement, vous vous êtes consolé mutuellement.
Voilà.
Avec une trompette.
C'est ça.
C'était magnifique, en tout cas. Très belle finale. Si vous n'avez pas vu le quiz de hier, je vous invite à aller le regarder. C'était un excellent quiz.
On vient de dire qui a gagné, qui a perdu.
C'était hier.
Ah,
donc,
oui.
Ils avaient qu'à le savoir.
Ils savent
pas dans quelle équipe ils étaient. Toi, t'aimes pas quand on spoil, hein?
Bah non.
Bah moi, ça me dérange pas de savoir qui a gagné. Donc, nos invités, Andrés, Pierre, oui, ce sont vos noms. Je tiens à le préciser quand même, hein, parce que...
Pierre et André.
Exactement. Voilà. C'est pas mal quand même d'avoir des noms bibliques, mais vous avez hésité de vous en débarrasser tous les deux.
Ouais. Le deuxième prénom, c'est Paul.
Les choses anciennes sont passées.
Ton deuxième prénom, c'est Paul.
Ah, Pierre et Paul.
Pierre, Paul, Jacques.
Pierre et Paul.
N'importe quoi. Donc, on va parler de vos ministères tout à l'heure dans la rubrique culture et médias. Mais rapidement, vous êtes tous les deux très impliqués dans l'évangélisation. Vous avez vraiment des cœurs d'évangélistes avant tout, même si Semayas, tu es pasteur également. Mais l'évangélisation prend beaucoup de place dans vos vies. Et justement, c'est le thème de notre émission. Donc, ça tombe bien. Quelle coïncidence. Jérémy, c'est toi qui fais la pensée du jour et on commence tout de suite. Jérémy, le titre de ta pensée est « Ces gens qui n'intéressent personne ».
Oui, je voudrais aujourd'hui vous parler de ces gens qui n'intéressent personne et qui ne vous intéressent certainement pas. Ce sont les personnes à qui vous ne parlez jamais. Ce sont ces personnes-là qui ne vous intéressent pas et pourtant, peut-être, le Seigneur vous appellerait et vous appelle à leur parler. Je me souviens au début, quand j'ai commencé à annoncer l'Évangile dans les rues, dans ma vie quotidienne, parfois où je sortais exprès pour ça, quand on va dans la rue, on voit tout type de personnes. On voit les personnes bien habillées, dans leurs costumes, qui rentrent chez eux, alors qu'ils étaient au travail toute la journée. On voit les gens qui sont dans les magasins, les vendeurs, etc. On voit des gens qui sont en train de marcher, de se promener. Mais on voit également des gens qui sont pauvres, des gens qu'on peut appeler des SDF, ou des gens, on appelle parfois même des cas sociaux, des personnes qui vivent une vie difficile. Et je me souviens des premières fois que j'ai parlé à un homme qui vivait dehors, dans la rue. Il m'a dit, tu sais, personne ne s'intéresse à nous, personne ne nous regarde. Et j'ai déjà eu l'occasion ici de raconter que lorsqu'il me parlait, quand il parlait avec moi, il m'a dit, tu vois, je vais lever mon bras et devant cette femme qui arrive. Et lorsque je vais lever mon bras, cette femme ne va pas me regarder. Et effectivement, deux secondes après, la femme arrive, il lève son bras à l'endroit où la femme devait passer. Et la femme se détourne sans même le regarder une seule fois. C'était un miracle oculaire. Et elle a continué à suivre sa route. Et dans notre vie chrétienne, si vraiment on veut marcher avec le Seigneur, à un moment ou à un autre, on va être confronté, je pense, au fait de parler avec ces personnes-là. On n'est peut-être pas les bons samaritains. On sait que le bon samaritain, c'était un homme qui, après qu'un lévite, un sacrificateur, soit passé sur un chemin où il y a un homme qui s'était fait attaquer par des brigands, il était tombé, on l'avait fait tomber dans le fossé, entre guillemets, il s'était retrouvé là, et l'homme de loi passe, il ne le regarde pas, l'homme de louange passe, il ne le regarde pas. Et souvent, bah, bien sûr, c'est nous les chrétiens. On aime la parole de Dieu, on lit la Bible, etc. On loue le Seigneur, on écoute Hosanna tout le temps. Ouais. Et finalement, quand on passe à côté des gens qui sont blessés, qui sont meurtris, on ne les regarde pas. Ces personnes qui n'intéressent pas les autres, c'est pas forcément des pauvres, c'est pas forcément des SDF, mais ceci peut-être cette femme qui dans le métro est en train de pleurer, c'est peut-être ce collègue de travail qui a l'air malheureux, c'est peut-être cette hôtesse de caisse quand vous faites vos courses qui n'a pas l'air très très bien, ou alors que vous la regardez, vous ressentez le besoin de parler à cette personne. C'est toutes ces personnes qui, comme Zachée, peut-être aimerait avoir votre attention, mais malheureusement ne l'ont pas. Et il faut que ça change. Et vraiment, je prie que on puisse avoir un cœur ouvert et disponible pour s'adresser à ces personnes qui n'intéressent pas les autres. Alors, quand j'ai commencé à annoncer l'évangile dans les rues, il m'est arrivé de parler avec des prostituées dans la ville où j'étais. En Bretagne, et pourtant il y en avait très très peu, mais un jour avec Gwen et quelques amis dans le groupe de jeunes, on a pu parler à des femmes prostituées, mais elles ont été dans notre groupe de jeunes, elles sont venues à 2-3 réunions. C'était vraiment intéressant pour nous, c'était particulier. Puis j'ai parlé à des SDF, à des gens dans la rue, j'ai parlé à des gens qui sentaient mauvais, à des gens qui venaient d'uriner, qui m'ont serré la main. Ici même dans la rue, juste à côté, il y avait un monsieur qui s'était blessé, et il était à moitié sous, il avait du sang sur les mains, et je lui ai serré la main. On a aidé une autre femme qui sentait tellement la cigarette que lorsque je sortais de chez elle, mes vêtements étaient imprégnés de cigarettes. On a voulu laver ses vêtements en passant 2 fois ses vêtements dans la machine à laver, ça sentait toujours aussi fort, vraiment c'était impressionnant. Et c'est vrai que s'approcher de ce genre de personnes, bah, ça peut être un peu repoussant. Je me souviens un jour, j'étais ici, je préparais un message pour une réunion que je faisais le soir dans une église. Et pour la première fois en 2014, j'ai voulu prêcher sur les finances. Je savais que c'était un besoin dans cette église, mais je sentais pas le message à l'intérieur de moi. Et Dieu m'a dit de prêcher sur le bon samaritain. Le soir, j'arrive dans cette église, je commence à prêcher sur ce samaritain que personne n'intéressait, ni les religieux, ni les hommes de louange. Et je vois une femme, et quand je vois cette femme, mon cœur est touché, je pense qu'elle a le cancer, elle a l'air tellement mal, et je suis touché, ému de compassion, je m'approche d'elle, et pour la première fois, je ne sais pas, je prends son menton comme ça, et je commence à lui donner une ou deux paroles en pleine réunion, et je commence à la prendre dans mes bras longuement, et à prier pour elle. À la fin de la réunion, j'étais là avec Eden, ma fille, et tout à coup, on entend une voix grave qui nous parle. Merci beaucoup d'avoir prié pour moi. En fait, cette femme était un homme. Oh. Il était un homme, et voilà, il avait fait toutes sortes d'opérations, il était tellement mal dans sa peau, et je me suis dit, mais si je n'avais pas cru que c'était une femme, est-ce que je l'aurais aimé de la sorte? Est-ce que je me serais approché d'elle, ou plutôt de lui? Est-ce que j'aurais pu lui prendre le visage? Est-ce que je l'aurais pris dans les bras comme ça? Et peut-être la réponse, c'est non. Et peut-être que vous aussi, vous rencontrez des gens qui n'ont pas l'air d'être selon votre image et selon ce que vous êtes, selon votre classe sociale, etc. Mais mon encouragement pour vous aujourd'hui, c'est que vous puissiez vous approcher de ces personnes qui ne vous intéressent peut-être pas, mais qui intéressent le Seigneur Jésus.
Amen. Merci beaucoup, Jérémy. Et c'est vrai, on croise tous les jours, hein, dans notre quotidien, des personnes qui ont l'air plus ou moins mal en point, plus ou moins malheureuses, plus ou moins, on se dit, la vie les a pas gâtées. On sent la souffrance sur leur visage, on sent la douleur. On ne connaît pas leur vie, mais on voit que c'est difficile. Et c'est tellement facile de détourner simplement le regard et de continuer ce qu'on est en train de faire. On les voit une seconde et la seconde d'après, on les a déjà oubliés. Et vous, Cospiel, Semayas, j'imagine que quand vous faites vos sorties d'évangélisation, vous voyez toutes sortes de monde, du plus classe, mieux habillé, qui paraît aller très très bien, au plus démuni, sale, voire même ivre, des personnes que vous pouvez croiser.
Exactement. Et puis un jour, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir les hommes et les femmes comme je les vois, mais je veux les voir comme toi, tu les vois. C'est-à-dire que maintenant, je ne veux plus voir un homme ou une femme quand je sors dans la rue, mais je veux voir une âme qui est en train d'aller tout droit en enfer, loin de Dieu, et que je ne peux pas permettre ça. C'est une responsabilité. Je pense que les chrétiens doivent sentir cette responsabilité. On est ambassadeur du Christ, on est représentant de Dieu sur la terre, et on a reçu le Saint-Esprit pour témoigner justement de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait dans nos vies, de ce qu'il a fait à la croix. Et c'est une obligation pour nous, parce qu'il faut qu'on sente cette responsabilité. Quelqu'un qui appelle Jésus Seigneur ne vit plus pour lui. tout chrétien, ce n'est, l'évangélisation, ce n'est pas simplement pour un certain de personnes appelées. C'est, nous avons tous reçu. Quand Jésus a dit « Allez » dans le monde entier, il a parlé à tous ses disciples. Pourtant, il y avait le pasteur, le prophète, l'évangéliste. Mais il a dit « Allez ». Il faut qu'on y aille vraiment.
La Bible dit dans Luc 10, verset 2, « La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Mm-hmm. » Et quand j'ai lu ce verset...
C'est notre verset du jour, Cospiel, à peu près. On peut l'afficher juste avant que tu redonnes la parole. C'est pratiquement ça, c'est dans Matthieu, mais ça veut dire pratiquement la même chose. « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Continue, je te laisse commenter.
C'est le verset qui me venait vraiment pendant qu'on écoutait Jérémie. En fait, le Seigneur a une grande moisson. Et dans l'agriculture, la moisson, c'est lorsqu'on a semé une semence et qu'elle est parvenue à pleine maturité. C'est quand c'est devenu du blé. On a besoin d'ouvriers qui viennent récolter le blé. Et il faut savoir qu'il y a plein d'âmes qui ont besoin de Christ. Mm-hmm. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et quand on voit quelqu'un tromper sa femme, quelqu'un insulter, quelqu'un qui demeure dans un péché, en fait, il crie à Dieu. Il dit, en fait, le péché est un cri aux yeux de Dieu. Et le pasteur Semayas m'a raconté cette anecdote. Certains pays où il y a un fort taux de criminalité sont souvent également élus pays du sourire. C'est drôle. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mm-hmm. J'ai pu voir au Congo qu'il y a une grâce exceptionnelle, mais ça cache aussi une grande et triste réalité. Et moi, c'est pourquoi je crois que nous ne devons pas regarder au péché, mais nous devons regarder à cet homme qui peut être transformé. La Bible nous parle de Pierre. Pierre, c'est cet homme qui s'est enfoncé dans l'eau. Pierre, c'est cet homme qui a coupé l'oreille d'un officier. Pierre, c'est cet homme qui a dit « ne va pas à la croix ». Mais Jésus ne regardait pas à ça. Jésus voyait à cet homme qui gagnerait 3000 âmes. Et j'encourage cette personne aujourd'hui qui elle-même ne se sent pas sûre d'elle, qui elle-même ne se dit « mais j'ai trop de défauts pour évangéliser », toutes ces choses-là. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser et tu ne dois pas regarder à tes défauts. Regarde à Christ. Comme Christ, avec toi, il a été patient. Tu dois être patient avec les autres, tout simplement.
Amen, amen. Toi, Jérémy, Dieu t'a vraiment mis à cœur de lever une armée d'évangélistes. Donc, tu considères que toute personne chrétienne née de nouveau est appelée à devenir cet évangéliste, entre guillemets, parce qu'on ne parle pas du ministère, mais on parle d'une personne qui va évangéliser.
Oui, c'est ça, comme dans le dessin animé Ratatouille, tout le monde peut cuisiner, mais tout le monde peut annoncer l'évangile.
C'est en regardant Ratatouille que Dieu t'a parlé?
Non.
Ouf.
J'aime beaucoup le dessin animé. Et c'est vrai que j'ai réalisé que tout le monde peut annoncer l'évangile. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde va forcément en faire à toute heure de la journée ou pendant 8 heures. On sait qu'il y a des ministères d'évangélistes, c'est vrai, ils sont particuliers et dédiés complètement à ça. Maintenant, c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, simples chrétiens, on ne devrait pas fermer les yeux sur les gens qui sont autour de nous, même si ça peut arriver. Il m'est arrivé plein de fois d'être froid et d'aller dehors sans même avoir la pensée d'annoncer l'évangile. Mmh. Plein de fois, ça m'est arrivé. Mais il faut qu'on progresse, en fait. Il faut qu'on progresse et qu'on fasse ce genre de prière que j'ai fait moi aussi. Seigneur, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton amour pour les gens. Même si on sait que c'est là en nous, mais c'est tellement enfoui des fois, avec des désirs personnels, l'activité, etc. Et effectivement, quand Dieu m'a dit « je vais t'appeler à lever une armée d'évangélistes », la première chose que je lui ai dit, mais Seigneur, je ne suis pas un évangéliste. Mais il m'a montré que tous ont reçu le ministère de la réconciliation. Et j'ai créé ce site internet, laevangéliste.com, sur lequel les gens peuvent aller s'inscrire et faire des rencontres aussi les uns avec les autres, s'encourager. Ça, ce sont des gens qui vont dans la rue exprès. Mais vraiment, moi, le contrairement à... Et c'est bien, c'est parce que ça se complète. Nous, c'est vraiment, entre autres, dans les métros, pour H24, pour Jésus. Moi, mon cœur, c'était vraiment... Ce que Dieu m'a montré, c'est... parce que ça peut faire peur aux gens, le métro, etc., ou aller frapper aux portes, etc., ou aller dans la rue exprès pour ça. Ce que Dieu m'a mis à cœur, c'est qu'en fait, on devienne dans notre vie quotidienne des évangélistes. Donc, c'est pas seulement je le fais, etc., mais dans ma vie quotidienne, quand je suis au restaurant, quand j'ai commencé à entrer dedans, en fait, parce que Dieu m'a parlé, c'était super, en fait. J'ai réalisé que la vie chrétienne, c'est une aventure. Quand vraiment on s'engage et qu'on fait ce genre de prière, on entre dans l'aventure et on peut se retrouver au restaurant et tout à coup, on regarde juste une personne et paf, tout de suite, on sent qu'on doit lui parler. Ou on regarde et là, on voit quelqu'un qui a mal quelque part, mal à la tête, ou on entend des gens qui nous disent des fois, je me sens tellement mal. Et là, tu sais que c'est le moment de prier pour eux, quoi. Et à ce moment-là, tu commences à entrer dans le miraculeux.
Amen. Il y a un mensonge du diable qui m'a souvent atteint, moi, dans l'évangélisation. C'est que j'avais compassion d'une personne mais j'ai cette pensée qui venait, quelqu'un d'autre lui parlera de Jésus. Mmh. Je vais seulement prier pour elle. Mmh. Voilà, je sens que je suis pas encore prêt. Mmh. Et ça, c'est un grand mensonge parce que souvent, ce quelqu'un d'autre n'existe pas.
Oui.
C'est vrai, c'est un grand, grand mensonge. Hein.
Ouais, et puis, ce que dit Jérémie, c'est exactement ça. Quand j'ai reçu, par exemple, cette vision d'évangéliser, je me suis dit, le diable travaille tous les jours. Dieu m'a fait comprendre que le diable est tâche 24 pour égarer des âmes en enfer. Il ne dort pas. Quand on va se coucher le soir tranquillement, quand on a des occupations, lui, il n'a pas d'occupation. Sa seule occupation, c'est d'égarer des âmes en enfer. Et en fait, H24, c'est exactement ce que a dit Jérémie, c'est en tout temps. C'est H24, sauf que, comme il a dit très bien, nous sommes tous appelés à évangéliser, mais pas de la même façon. Et n'avons pas tous le ministère de l'évangéliste. Ça, c'est quelque chose que, et c'est important de le clarifier, parce que en vérité, quand Jésus a parlé à Pierre, il a dit « Si tu m'aimes, occupe-toi de mes brebis ». S'occuper de ses brebis, c'est avoir le cœur de Jésus. Mmh. Tous les cinq ministères doivent avoir ce cœur pour les âmes perdues. Le cœur de Dieu bat pour les âmes perdues. Tout à l'heure, Cospiel a parlé de la moisson. Et un caractéristique qui est très important dans l'agriculture, c'est la patience. Ne croyons pas que lorsque nous allons témoigner à quelqu'un ou évangéliser quelqu'un, il y aura toujours des repentances. Non, souvent on me dit « Oui, mais quel fruit porte ton travail ?» Mmh. Moi, je fais simplement par obéissance. Si Dieu m'a ordonné de faire ça, j'obéis. Dans les métros, si Dieu demande à quelqu'un de faire dans les bus, dans les églises, dans les parcs, dans les universités, centres commerciaux, il faut que chacun ait une intimité avec le Saint-Esprit et il obéisse dans les multimédias, comme vous faites à travers EMCI. C'est magnifique, c'est une forme d'évangélisation également.
Mmh. La Bible nous dit que Jésus allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Et aujourd'hui, ben, on peut se dire, mais le bien, c'est quoi? Mais le plus grand bien qu'on peut offrir à quelqu'un, mais c'est que cette personne accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Et on sait que Jésus, c'est notre modèle. Et ça veut dire que nous aussi, en fait, partout où on passe, de lieu en lieu, mais on doit faire du bien. On doit pouvoir donner la possibilité à des personnes, mais d'être connectées avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en plus, tellement de gens, moi, c'est ce que Dieu m'a montré, en fait, c'est que tellement de gens cherchent le Seigneur, mais ils ne le savent pas. Mmh. Il y a des gens qu'on voit derrière certaines attitudes qu'on peut voir, derrière même ces personnes qui se retrouvent dans la rue. Là, on est en train de parler, on dit que nous sommes concernés par l'évangélisation. J'ai mis à parler des personnes qui n'intéressent pas forcément, mais ces personnes cherchent le Seigneur, même si elles ne le savent pas. Derrière certaines attitudes, derrière certains comportements, en fait, c'est des gens qui cherchent le Seigneur et on peut pas se priver d'apporter le Seigneur dans ces vies-là. On ne sait pas, c'est possible qu'on soit repoussé, c'est possible que les personnes même ne sont pas, entre guillemets, agréables pour aller leur parler du Seigneur, mais on ne peut pas, si on veut suivre l'exemple de Jésus-Christ, qui est notre modèle, qui allait et qui faisait du bien, on ne peut pas juste se limiter. Se limiter serait vraiment être égoïste, ce serait vraiment penser à nous tout seuls. Mais si on est un chrétien, on est un disciple du Seigneur, mais ça veut dire qu'on doit faire comme lui. Et lui, il nous a montré cet exemple-là qui est d'aller faire du bien. Et le bien, c'est de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ.
Il y a des expériences qu'on ne pourra jamais faire dans l'Église. Dans les quatre murs de l'Église, il y a des expériences dans l'Église qu'on ne pourra jamais faire. Même si on est tout le temps à l'Église, il y a des expériences qu'on n'aura jamais dans l'Église et qu'on aura seulement dans la rue. Dans la vie, quand on prend quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et que peut-être on a une parole de connaissance ou tout simplement qu'on commence à l'aimer, qu'on voit cette personne commencer à pleurer ou qu'on peut la prendre dans les bras... quand on prie pour quelqu'un et que la personne dit « Ah, oh, je sens une chaleur », c'est tellement c'est extraordinaire. Quoi. La première fois que ça nous arrive, on se dit « Waouh, j'ai rien senti moi-même ». C'est fou, comme on réalise, en fait, on commence à vivre l'Évangile. Jusqu'ici, on l'avait entendu, mais là, on le vit. Et c'est génial, on a l'impression d'être avec les disciples. Là, quand ils avaient reçu l'autorité de chasser les démons, tout à coup, ça m'est arrivé de prendre autorité sur des démons dans la rue parce que le monsieur commençait à devenir bizarre, etc. Il y avait des mauvais esprits. Et je me dis « Waouh, c'est ça, c'est cool, comme on en parlait hier. C'est extraordinaire. »
C'est vrai.
Et comment justement, parce que bon, on parle d'évangéliser, mais il y en a plusieurs qui nous écoutent, qui sont allés dans la rue, qui ont fait un effort presque surhumain pour aller le faire parce que ça les a vraiment sortis de leur zone de confort. Ils ont témoigné à, je sais pas, 10-15 personnes, il n'y a eu aucun fruit, ils se sont fait envoyer, balader par la moitié. Mmh. Comment on peut gérer ça pour des personnes qui nous écoutent, qui ont été découragées par des sorties d'évangélisation, qui ont dit, finalement, ça, c'est pas pour moi.
Alors moi, j'ai cette anecdote qui est très drôle, c'est que j'évangélisais que les Africains, parce que c'était facile. j'allais voir, je dis, il n'y a pas des Africains ici. Hop, je vais le voir, il me dit, j'ai Jésus. Et je dirais, j'ai évangélisé parce que j'ai parlé de Jésus.
Oui, c'est clair.
Alors qu'en vrai, c'est faux parce que ces personnes-là, elles ont peut-être des fois besoin de renouveler leur alliance avec Dieu. Mm-hmm. Peut-être des fois, il faut les confronter à leur vie. Est-ce qu'ils sont mondains dans ce qu'ils font? Est-ce qu'ils aiment réellement Dieu? Est-ce que Jésus est Seigneur de leur vie? C'est pas parce que tu as Jésus que tu es chrétien. Il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus mais qui ne sont pas soumis à lui. Et j'avais cette anecdote. Et un jour, j'ai dit, bon, je vais sortir de ma zone de confort et j'ai regardé celui qui me faisait le plus peur dans la rue. J'ai regardé le plus grand et il y a un grand costaud. Je dis, oh là là, il avait un grand bomber, on était à Châtelet. J'ai dit, si je vais le voir, il va me taper, lui. Je suis allé le voir et j'avais peur, j'étais plus dans ma zone de confort. Et quand je lui ai parlé de Jésus, son visage, en fait, est devenu, je sais pas, il s'est défait, il a dit, waouh, merci, c'est tout ce dont j'avais besoin d'entendre. En fait, quand quelqu'un est costaud, faut pas oublier qu'un cœur, ça reste petit.
Oui,
que tu sois costaud ou pas, le cœur, c'est le même. Et je pense vraiment qu'il faut pas qu'on regarde avec nos propres yeux à nos peurs, mais il faut qu'on sache penser comme Dieu pense. Moi, quand j'arrive dans un métro, j'arrive comme si on m'avait invité. Bonjour à toutes et à tous. Ça, vous allez bien? C'est là, je suis là. Je suis dans la démonstration de
on
ce que j'aime.
On peut commencer, je suis arrivée. Voilà. Quel métro démarre, c'est bon.
C'est ça. Mais souvent, la Bible nous dit, il faut que ta foi soit comme un grain de moutarde et tu pourras déplacer des montagnes. Alors pourquoi on nous enseigne qu'il nous faut des fois comme des montagnes pour déplacer des grains?
Waouh, c'est profond, là.
Amen. Ta petite foi marchera. Ta petite foi marchera. Ta petite foi, ton
T'as perdu
témoignage.
Annabelle, là.
Moi, j'ai compris.
J'ai compris.
En fait, ta petite foi marchera. Ton petit témoignage marchera. Il n'y a rien de petit au final. Comme Lazare n'avait pas cette formation théologique, il avait ce petit témoignage. Et puis toi, Jésus, t'as sorti du péché. T'as sorti. Avant, tu ne pouvais pas dormir. Maintenant, tu peux dormir. Annonce-le. Et Dieu, sois dans la foi que Dieu lui touchera.
Mais parfois, il y a des gens qui sont difficiles. Il faut aussi le dire quand même, c'est qu'on tombe sur des personnes qui sont difficiles dans la rue. Je me rappelle, un jour, j'ai parlé à un monsieur et puis j'ai voulu prier pour lui. Je lui ai demandé, est-ce que je peux vous toucher? Il m'a dit, tu me touches, je t'envoie en enfer.
Ah oui.
Il y a des personnes comme ça, on peut pas le nier. Et c'est pas pour autant, en fait, qu'on doit avoir peur d'évangéliser. Mais c'est juste, il faut comprendre aussi qu'on parle à des gens, c'est des semences, en fait, qu'on est en train de faire dans
c'est
le cœur.
Ça.
Et on ne sait pas quand ces semences-là vont porter du fruit.
Oui.
Mais on ne peut pas se taire. Parce que si ça se trouve, cette parole-là, ben, elle va germer. Le Saint-Esprit va rappeler cette parole à la personne. Et au final, parfois, on parle même à des gens dans la rue, ils nous disent, ah, mais tiens, c'est la deuxième fois qu'on m'aborde dans la rue pour me dire telle chose ou pour faire ça. En fait, c'est des semences qu'on
c'est
a faites.
Ça.
Donc, même si la personne semble difficile et complexe, mais qu'on ne se prive pas de déposer une semence dans la vie de cette personne-là.
Amen. Et Pasteur Séméas, tu vas répondre à une question maintenant de Maï du Canada, qui a demandé comment partager son témoignage de façon efficace. Ça, c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'on nous dit souvent, utilise ton témoignage, t'as un témoignage, tu peux évangéliser, t'as un témoignage, c'est suffisant. Mais comment est-ce qu'on peut le faire de façon réellement efficace, pertinente? Est-ce qu'on raconte toute notre vie de A à Z depuis le jour où on est né?
Oui, il faut tout dire.
Ah, d'accord.
Il faut dire comment s'appelle ton père, ta mère.
Ton arbre généalogique.
La question le dit, en fait, si on peut le faire d'une façon efficace, on peut le faire d'une façon qui n'est pas efficace.
Oui.
Alors, qu'est-ce que la personne doit entendre? Souvent, on croit que pour prêcher, il faut qu'on fasse bien. On se dit, est-ce que j'ai bien témoigné? Est-ce que j'ai mal témoigné? Il faut dire, en fait, la parole. Toujours la parole, ce que tu as expérimenté. Et la Bible dira, lorsque dans l'Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 8, avant que le Seigneur Jésus monte à la droite du Père, il a dit, restez à Jérusalem. Et vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit. Alors, vous serez mes témoins. Mes témoins. Témoins de quoi? De ce que Jésus a fait pour le monde, tout d'abord, et de ce que Jésus a fait dans notre vie personnelle. Alors, il y a des choses à éviter de dire. Il n'y a pas une recette miracle de comment témoigner, comment évangéliser. Chaque pasteur va te donner sa façon, mais en tous les cas, il est important de toujours chercher à glorifier le Seigneur Jésus, à montrer à la personne que Dieu est amour, que ce qu'il a fait dans notre vie, il peut le faire dans sa vie. Pas besoin de raconter toute sa vie, en profondeur. Surtout, je vais vraiment parler de quelque chose de très important. Les chrétiens, nous faisons toujours souvent une erreur, c'est de trop parler de notre intimité. En tant que femme, en tant qu'homme, oui, j'ai vécu ça dans telle relation sexuelle ou telle ça. Et on fait cette erreur dans les métros, dans les rues, quand on prêche, dans les émissions. Et on commence à dévoiler notre intimité. Ça se trouve, celle de ta femme, ton mari, ou ça se trouve, ton fils, ta fille va voir l'émission. Ou bien, c'est très délicat, faut faire très attention dans ce qu'on va dire. et pas aller raconter des choses trop personnelles.
C'est ça, on n'a pas besoin de dévoiler toute son intimité, tous les détails.
Non, c'est pas ça. Et témoigner d'une façon efficace avant. Comment était ta vie avant? Moi, je le situe souvent en trois étapes. Mm-hmm. Comment était ta vie avant de connaître Jésus-Christ? Comment as-tu expérimenté Jésus-Christ? Et comment est ta vie maintenant que tu as expérimenté Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Premièrement, la vie éternelle. On ne va pas dire simplement, oui, bah, je témoigne, avant j'étais pauvre, maintenant je suis riche depuis que j'ai accepté Jésus.
Alléluia.
Même si Dieu l'a fait dans ta vie, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas ça pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour sauver nos âmes.
Amen.
Il est venu, la Bible dit que Dieu n'a pas, le Père n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde et pour le juger, mais pour que le monde soit sauvé. Si le Père a envoyé son Fils pour sauver le monde, et il rend témoignage du Père, nous rendons témoignage du Fils. Le Fils rend témoignage du Père. Le Saint-Esprit rendra témoignage. Et au moment présent, il va nous donner les paroles dans notre bouche. Ne nous inquiétons pas. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a des personnes qui sont dures et tout. Pourquoi les personnes se frustrent? Moi, ça m'est arrivé. Parce qu'on va dans le but de convertir les personnes. N'allons pas dans ce but-là. C'est le Saint-Esprit qui va convertir les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre les cœurs. Jésus a dit « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. » Il n'a pas dit « Allez convaincre le monde entier. » Tu ne peux pas convaincre. Des fois, tu ne peux même pas convaincre ton mari, même pas convaincre ta femme, convaincre quelqu'un d'autre. Non, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Il faut vraiment s'appuyer sur Dieu. Il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Quelqu'un qui va évangéliser doit d'abord savoir qu'il ne va pas tout seul. Il va avec Dieu. Dieu est avec lui. Amen. Dieu l'accompagne. Il faut prier avant. Des gens qui intercèdent pour nous, c'est bien qu'on va sur le terrain. C'est toujours important d'avoir une équipe. J'en parlerai plus tard.
Oui.
Et après, quand tu as témoigné à quelqu'un de ce que Jésus a fait dans ta vie, toujours glorifier le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est le nom de Jésus qui sauve. Mm-hmm. C'est vaste, Dieu. Dieu, n'importe qui, un musulman parle de Dieu, un juif parle de Dieu, même un hindouiste parle de Dieu. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas un autre nom donné sous le ciel qui puisse sauver si ce n'est le nom de Jésus-Christ.
Amen.
C'est le nom de Jésus. Témoigne de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Il a porté nos péchés. Il faut qu'on le dise à tout le monde. Quand on va témoigner à quelqu'un de ce qu'il a fait pour nous, souvent, il est important pour quelqu'un qui va évangéliser de s'intéresser à la personne. Mm-hmm. On a des êtres humains en face de nous. On a des êtres humains qui ont des situations difficiles, qui vivent des problèmes. Il faut prier pour que le Saint-Esprit puisse nous adapter un message à la personne qu'on a en face. Tu vas avoir quelqu'un, tu vas lui parler forcément d'un verset qui va le juger ou le condamner, mais Dieu te dit, tu montres que la personne est en train de vivre des moments difficiles dans sa santé, avec sa famille, dans son foyer, il y a des moments difficiles financiers. Tu peux lui témoigner, oui, voilà. C'est pas que Dieu m'a rendu riche, mais c'est que moi j'avais un refuge différent.
Oui. Mmh.
Le monde, les chrétiens vivent les mêmes problèmes que les gens qui ne sont non croyants. C'est quoi la différence du chrétien? C'est que le monde se réfugie dans l'alcool, le monde se réfugie dans la drogue, le monde se réfugie en boîte de nuit, dans les bras d'une femme qui n'est pas la sienne, dans les bras d'un homme qui n'est pas le sien, dans un moment d'épreuve. Nous, les chrétiens, nous nous réfugions dans la Bible, nous nous réfugions dans la prière. Et c'est ça qui donne vraiment la force dans le témoignage, vraiment. Amen. Toujours mettre Jésus-Christ en avant et ne pas dévoiler trop sa vie intime, pas besoin.
Merci beaucoup, Pasteur Semayas. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurjayunequestion@emcitv.com. Et nous allons continuer maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui tu nous présentes les ministères de nos invités et ça semble déjà être drôle. On a hâte.
On est drôle.
Non, pas vous, moi. Oui, bon, fait. On va commencer avec H24 parce que toi, Pasteur Simas, c'est toi qui as fondé ce ministère en fait.
Exactement. Oui.
Il y a combien de temps?
J'ai commencé à évangéliser dans les métros de Paris en 2014.
En 2014. Et d'ailleurs, c'est à travers le ministère H24 que vous avez fait connaissance, que vous êtes rencontré. Ouais. Parce que toi, tu as vu qu'ils faisaient des sorties d'évangélisation. Ouais. Et le Breton que tu es parti à Paris.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'il n'y avait pas de métro en Bretagne.
Des vaches, je m'informais, exactement.
Ok, d'accord. Donc, tu as dit, ça fait combien de temps H24?
4 ans.
4 ans, ok. 4 ans, je propose qu'on regarde tout de suite une vidéo qui présente le ministère H24. Et puis après, on va pouvoir revenir dessus.
Liés en même esprit avec mes frères et sœurs, nous reconnaissons ta majesté, Seigneur Jésus-Christ. Nous reconnaissons, Seigneur, ta seigneurie. Tu es le Fils de Dieu, tu es notre Seigneur et Sauveur. Merci de nous donner ce privilège de préparer ta venue, glorieuse Seigneur. Ta parole dit que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Seigneur, merci pour ton amour. Donne-nous la compassion pour les âmes. Donne-nous, Seigneur, de voir les âmes comme toi tu les vois. Seigneur, d'être conscient que ces âmes après leur mort, risquent une éternité en enfer. Merci, mon Dieu, pour ta faveur et ta grâce. Continue, Seigneur, de nous utiliser pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Merci, Père, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen et Amen, Seigneur. Bonsoir à tous, ici votre serviteur, c'est Maïas. Alors, je vous invite dans notre univers H24 pour Jésus. Évangélisation tous les jours du lundi au vendredi dans les métros de Paris et dans les banlieues. Les matins, nous nous réunissons à 10h et nous évangélisons 3h dans les RER et dans différentes villes de la région parisienne. Les soirs, nous nous réunissons à 20h à Châtelet-Léal. Comme d'habitude, tous les rendez-vous sont à Châtelet-Léal, de 20h à 22h30. Alors pourquoi faire cela? Pourquoi aller prêcher l'évangile dans les métros de Paris et dans les banlieues? La Bible dit que lorsque Jésus a appelé ses disciples, il a dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Lorsque toute personne qui se repent de ses péchés et vient à Dieu par son Messie, son Fils Jésus-Christ, eh bien, il faut savoir que nous avons été sauvés pour sauver d'autres personnes. Jésus nous appelle aujourd'hui à sauver les âmes parce qu'un jour, tout être humain mourra. Et lorsque nous allons mourir, nous n'allons rien emporter avec nous, mes frères et sœurs. La seule chose que nous allons emporter, c'est ce que nous avons fait sur terre pour le Seigneur. Alors, j'aimerais lire un passage qui se trouve dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, à partir du verset 13. La parole de Dieu dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils en lui s'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui le prêche? » Il est nécessaire que toutes les personnes qui sont dans les métros, toutes ces personnes-là qui sortent du travail, qui ont des problèmes de maladie, des problèmes dans le mariage, ils ont des problèmes de santé, ils vont mourir un jour, ils sont dans l'angoisse, dans le stress, dans la dépression, dans l'amertume. Ces personnes-là ont besoin de l'amour de Dieu. Ils ont besoin de ce que Jésus se révèle à eux. Mais comment Jésus se révélera à eux si toi et moi qui avons Jésus n'allons pas les voir?
Waouh, c'est super.
Enfin, un défi des métros, c'est que quand le métro passe, il faut parler plus fort.
Ah,
c'est pas le plus gros, tu vois.
C'est vrai, c'est pas bon.
Et qui peut participer à ces rencontres? Est-ce qu'il faut avoir une invitation? Est-ce qu'il faut faire partie d'une église, faire partie du mouvement, porter le t-shirt?
Il faut avoir été ordonné apôtre, il faut avoir fait 3 ans de théologie. Non, je...
T'es tout seul tous les jours?
Alors, en fait, il faut avoir envie de sauver des âmes et que, voilà, confesser que Jésus est son Seigneur et Sauveur. C'est clair que je ne vais pas inviter quelqu'un qui va commencer à prêcher le judaïsme ou l'islam.
Mais là, les gens qui suivent l'émission, ils
tout
disent « j'ai envie d'y aller, il n'y a pas besoin d'avoir une invitation ».
C'est bienvenu. En fait, la vision H24 pour Jésus, c'est que j'ai reçu la vision de Dieu, c'est des chrétiens de différentes églises, le corps du Christ, qui veut sauver des âmes, qui réunir des chrétiens de différentes églises pour un seul et même but. Adorer le Seigneur et évangéliser. On touche pas à la doctrine. Voilà, c'est simplement évangélisation.
Ici, si moi je vais y aller, mais je veux pas parler tout fort dans le métro, je
Annabelle,
peux venir
tu
quand
peux
même.
Venir.
Merci. J'ai invité.
Ouais. En fait, tu peux venir pour distribuer des flyers.
D'accord.
On a des prospectus où il y a voilà le plan du salut. Il parle de l'amour de Jésus-Christ, il présente ce qu'il a fait à la croix, et puis voilà, il y a l'adresse des rassemblements H24 pour Jésus. Et tu peux distribuer, et c'est une âme qui peut être touchée par le Seigneur. Il y a aussi la possibilité d'intercéder, tu nous accompagnes, tu intercèdes, ou il y a la proclamation, ou le relationnel. Voilà, le relationnel, c'est quand, comme fait Jérémy dans l'émission Go, d'aller voir les personnes. Alors, il y a un proclamateur, et il y en a d'autres qu'au même temps, ils vont voir, alors qu'est-ce que vous en pensez de ce que la personne est en train de dire, de Jésus-Christ. Et là, on commence une relation, une discussion de face à face, de cœur à cœur. Ou bien, si tu te sens forte, chose d'un moment, tu danses. Voilà.
Le mégaphone.
Et, voilà.
Ouais. Et c'est quoi l'accueil que vous avez en général quand toi tu vas avec ton équipe? Quel accueil vous avez dans les trams?
L'accueil pour trams. Recevoir les... Oui, on fait les trams aussi, t'as raison, tu profites, on a les trams. En fait, on fait les trams, les métros et les RER. Mmh. Les accueils envers les chrétiens, voilà, le lieu de rendez-vous, comme on a dit tout à l'heure, c'est à Châtelet-Léal. Pour ceux qui connaissent Paris, Châtelet-Léal, c'est...
Je pense qu'elle te parle de l'accueil des gens, c'est ça?
Ouais.
Oui, justement.
Comment les gens réagissent?
Comment les gens réagissent dans le métro?
Oui, non, ben, oui, on dit bonjour, ça va.
Voilà, alors, on accueille... C'est important ce que tu viens de dire, parce qu'on accueille les gens, on leur explique bien. Comment évangéliser? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Et les gens, comment ils le prennent? Alors, il y a tout. Paris, c'est, il y a de tout. Il y a des athées, musulmans, juifs, tout, sorciers, tout ce que tu veux.
Déjà fait taper?
Non, mais cracher au visage, ouais. Ah, et même défier pour me battre et j'ai dû descendre. Voilà, du train pour éviter d'avoir... Bah oui. J'ai dû donner un exemple aussi à ceux qui m'accompagnaient. Mm-hmm. Donc, il faut mourir. Celui qui veut évangéliser...
Pas mourir physiquement.
Je oui, précise. Voilà, voilà, oui.
Je précise.
Je parle à des chrétiens. Hein. Il faut mourir à soi-même. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il renonce à lui-même chaque jour. Pas chaque dimanche à l'église, pas chaque mercredi à la réunion de prière. Tous les jours, on doit être prêt à renoncer à nous, à ce qu'on nous insulte. Ça ne doit plus nous importer. Ce que les gens pensent de nous, ce qu'ils nous disent, ce qui nous importe, c'est ce que Dieu pense de nous.
Amen. Donc, les rendez-vous sont tous les jours à Châtelet-Léal, à 10h et à 20h, c'est
exactement.
Ça. Est-ce qu'on peut descendre en cours de route parce que ça dure 3 heures
Non, tu restes avec nous jusqu'à la fin. On meurt ensemble. On vit ensemble, on meurt ensemble.
C'est vraiment un engagement.
Jusqu'à que la mort ne sait pas.
Tout ça avec les t-shirts, bien sûr.
Voilà, les t-shirts, voilà. H24 pour Jésus. Bon, là, il est en relief à cause de mon ventre, là, tu vois. Oh. Il est en 3D. Il est en 3D. Ouais, mais voilà, c'est... Ouais. Non, tu peux descendre. T'inquiète pas, la belle. On va pas te séquestrer. Ouais. Tu peux descendre à n'importe quel moment.
Dernière question que les gens se posent aussi. Est-ce que c'est légal de faire ça? Ou est-ce que les gens risquent d'aller en prison?
Ouais, non, j'ai parlé avec Emmanuel Macron. Il m'a dit, c'est bon, hein, c'est Maïs, vas-y. On va. C'est bon, j'ai l'autorisation. Non, bah je pense que aujourd'hui on sait tous que le prince de ce monde il va tout faire.
Ouais.
Mais nous on a une façon de procéder, c'est que on se soumet aux autorités.
D'accord.
Alors on le fait. Mais s'il y a un agent de RATP ou bien il y a un policier qui vient et dit stop, on arrête tout, on arrête. Ouais. Tout.
D'accord. Voilà. Okay.
Par contre on change de ligne, on continue.
Bah oui.
On arrête là où il nous a dit, on arrête, d'accord, on arrête. Okay. Mais on continue notre part.
Voilà. Et toi aussi Cospiel, tu participes de temps en temps aussi, et puis vous êtes rencontré avec H24 comme je l'ai dit. Mais toi aussi, tu fais des sorties dans les RER, métro et tram.
Ouais, alors maintenant, je me suis plus spécialisé dans des missions où je vais dans des pays et je transmets ce fardeau en fait, d'évangélisation qu'on a en France. J'essaie de le transmettre en Martinique, en Suisse, en Belgique, au Congo, au Sénégal également. On essaie de transmettre cette manière d'évangéliser, en fait, dans la proclamation, dans le relationnel. Et c'est vrai que les chrétiens ont besoin d'être encouragés.
Mm-hmm. On va voir aussi une petite vidéo de toi dans un métro.
Ok.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Excusez-moi de vous déranger, j'aimerais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Je ne veux pas votre argent, je ne veux pas vos cartes bleues, seulement votre attention, s'il vous plaît. Vous savez, dans la vie, on cherche beaucoup à être heureux. C'est pourquoi on veut se marier, on veut faire de nombreuses choses, on veut avoir un travail, on veut avoir de l'argent. Parce qu'on pense, voilà, de la drogue, c'est bien, c'est un bel exemple. On cherche en fait à combler un vide dans son cœur. Et c'est vrai que moi, j'ai essayé. Je viens d'une famille où je ne manquais de rien. C'est vrai que j'avais tout pour être heureux. Ma mère me le disait. Elle me disait, mais Pierre, tu as tout pour être heureux. Et j'ai trouvé comment être heureux. Pourquoi moi, à 21 ans, j'ai accepté Jésus? J'aurais pu aller en boîte de nuit, coucher avec différentes femmes. Mais j'ai compris que Jésus m'aimait. Et Jésus t'aime. Jésus t'appelle. Tu penses que c'est un hasard? Le hasard, c'est la forme que prend Dieu pour passer incognito. Ce n'est pas un slogan, j'ai une vraie relation avec Dieu. Ce n'est pas un hasard. Essaye de ne pas endurcir ton cœur. Prends une décision. Si tu veux accepter Jésus, tu lui dis tout simplement, Jésus, je veux t'accepter dans ma vie. Je veux te demander pardon. Et tu peux passer pour un fou. Je sais que je passe pour un fou. Pourtant, j'ai toute ma tête. Je suis diplômé. Donc, essayez bien de réfléchir à tout ça. Et désolé du dérangement. Que Dieu vous bénisse.
Et qu'on commence l'émission, tu disais, toi, quand tu vas évangéliser, tu rentres dans un tram, un métro ou tout ce que vous voulez, dans vos villes. Tu rentres et tu commences comme si on t'avait invité.
Exactement. La Bible dit d'être dans la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, je démontre des choses que je crois. Donc, je rentre comme si on m'avait invité. J'arrive, hello, j'espère que vous allez bien, tout ça. Même au Congo, j'étais dans un bus, j'avais peur. Et les gens parlaient fort, ils étaient charismatiques. J'ai dit, je vais me faire frapper. Parce qu'au Congo, c'est très charismatique. Et je me lève, je fais Zama Pambolabino. En fait, ça veut dire que Dieu vous bénisse. Et je suis arrivé comme si j'étais dans une église. En fait, j'ai mis ma chair et puis j'ai prêché.
Ah oui, tu t'imposes quoi.
Voilà.
Et comment on fait du coup si on veut faire des sorties avec toi, si on veut te suivre dans. S'il y a des gens qui sont dans d'autres pays, les missions où tu vas, comment on fait pour savoir où tu vas?
Il s'inscrit sur evangeliste.com. J'espère que tu vas inscrire tes événements sur evangeliste.com. Alors, je suis sur la carte du monde.
Je suis inscrit sur evangeliste.com.
Aussi, d'ailleurs.
Inscrivez-vous. Et pour rejoindre en fait les événements, je vais faire des partages bibliques, des évangélisations, des cultes et différents événements où je vais souvent encourager et transmettre ce fardeau. Souvent, ça sera sur Instagram. Donc Instagram, C-O-S-P-I-E-L et pas Gospiel, ni Guapiel, ni
Coolspiel.
Coolspiel ou frère Lance-Pierre, je crois.
Cospierre, voilà. Merci beaucoup. Voilà. C'est super de voir des jeunes qui évangélisent et puis qui n'ont pas honte, comme vous en avez parlé dans la semaine. Le fait d'être cool, c'est aussi d'aller évangéliser et de montrer que ça peut faire partie de la vie chrétienne, ça doit faire partie de la vie chrétienne. Et moi, j'aurais bien aimé, à ce moment, quand on s'est donné au Seigneur, avoir des mouvements comme ça pour nous entraîner à l'évangélisation dans la rue. Donc vraiment, bah, merci beaucoup. Alors, suivez evangelis.com et sinon la page Instagram de Cospiel et H24, une page Facebook aussi.
Oui, H24 pour Jésus sur YouTube, sur Instagram, Facebook, ou Pasteur Semayas.
Voilà. Ok, super. Donc voilà, merci beaucoup.
Merci à la
Ça s'est bien passé.
Très bien passé. Okay. Super. Comme sur des roulettes.
Ah mince, on est encore
dedans. Merci Annabelle et merci à vous deux d'être venus sur le plateau de Bonjour Chez Vous. C'était un plaisir de vous avoir. C'était un plaisir de vous avoir dans le quiz.
Merci beaucoup.
Et je tiens à préciser que vous avez enregistré tous les deux une rubrique C'est mon histoire dans laquelle vous partagez certains de vos témoignages, donc qui seront diffusés dans les prochaines semaines, les vendredis suivants. Donc merci encore d'être venus. Je vous souhaite un bon retour en France et persévérez dans ce que vous êtes en train de faire.
Merci.
Et nous, on se retrouve demain. Notre thème sera Sois fortifié, fidèle serviteur. Soyez fortifié, fidèle serviteur.
Merci.
Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec le pasteur Alain Patrick Tsenguet qui a raconté comment il a reçu la visite d'ange et du Seigneur Jésus, rien que ça. Voilà, merci à tous, on se retrouve demain et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.